corps.
Tiens.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Lélo, comment ça va ?
Ça va très bien.
Nous continuons le procès des années 90 avec un film dont nous allons essayer de comprendre a posteriori, a fortiori presque, le culte qui nous échappe. Hein. On le dit, on le redit, on a quasi... Non, une génération, c'est peut-être beaucoup. On a plusieurs années d'écart et on n'a pas vécu les années 90 de la même façon, mais tous les deux, on est sur un angle mort par rapport à Quatre garçons pleins d'avenir de Jean-Paul Lilienfeld. On connaît des gens qui adorent ce film, des gens qu'on aime, qu'on respecte. Et le film, peut-on en dire autant ? Peut-on en dire autant ?
C'est compliqué, c'est vraiment trop trop compliqué. Moi, c'est pas, enfin, moi je connais personne qui aime ce film en vérité. Enfin, c'est peut-être là qu'il y a déjà, il y a déjà un premier gap générationnel, c'est que moi quand c'est sorti j'avais 21 ans. Quand je l'ai vu j'en avais déjà 22, c'était l'année d'après. Et je crois que, en fait, je peux te raconter. Enfin, j'avais déjà raconté, je crois, dans l'épisode sur Hackers, comment j'étais tombé sur ce film et quel volcan de merde ça a été, quoi. Enfin, je rappelle rapidement, enfin rapidement ou pas, parce qu'après tout, on peut perdre un peu de temps vu qu'il y a tellement peu de choses à dire sur ce truc.
Oh, mais t'inquiète. T'inquiète.
Non, mais en fait, en 98, je suis étudiant à Nancy, donc et 98, voilà, on resitue historique, on est là aussi pour ça. C'est l'année de la Coupe du Monde qui sera, contre toute attente, remportée par l'équipe de France. Et je dis bien contre toute attente parce que au moment où la compétition démarre, personne, mais absolument personne, ne mise sur la France. Vraiment de la presse au comptoir de bar du coin, tu vois, l'équipe, elle est vraiment conspuée absolument partout. Il y a notamment deux noms qui reviennent tout le temps, avec généralement une longue traînée d'insultes derrière, c'est Christophe Dugarry et Aimé Jacquet.
Mmh. Mais Jacquet était un zozo. C'était,
Oui. Ah, oui. Et il faut rappeler donc qu'à ce moment-là aussi, le foot est très clivant encore. Il y a énormément de gens qui détestent ça. Et en plus, l'équipe de France se porte plutôt très mal en termes de résultats, vu qu'elle n'avait même pas été sélectionnée pour la Coupe du Monde précédente qui s'était déroulée aux USA en 94. Donc au moment où la compétition démarre, l'ambiance, c'est ils vont se faire touler dès le premier tour de qualif, rentrer comme des buses, et ce sera bien mérité. Et dans cette ambiance-là, tu avais plein de contre-programmes qui se sont lancés partout à la télé. Je me souviens notamment de M6 qui avait vraiment basé toute sa com là-dessus avec une opération qui s'appelait Rien à foutre et où ils diffusaient en face de chaque match des super gros blockbusters qu'ils diffusaient pas en temps normal. Donc ils avaient vraiment vraiment cassé la tirelire, quoi. Et plus localement, t'avais aussi pas mal d'opérations dans les bars, les boîtes de nuit, les salles de concert et aussi les vidéoclubs. Et à Nancy, on avait un vidéoclub assez génial dont j'ai complètement oublié le nom, mais qu'entre nous, comme je l'avais dit la dernière fois, on l'appelait Big Choice Video, en référence à une scène dans Clerks où Randall ferme son propre vidéoclub pour aller louer un film dans un autre vidéoclub qui s'appelle justement Big Choice Video. On l'appelait comme ça parce qu'il était situé un peu plus loin, il était un peu plus excentrique que tous les autres, mais on y allait toujours en priorité parce qu'il avait un choix de dingue, notamment pas mal d'imports. Et donc, Big Choice Video, celui de Nancy, pendant la Coupe du Monde, ils ont fait un plan où tu pouvais, en gros, louer deux films pour le prix d'un. Et j'en ai profité pour louer soit des trucs un peu risqués, un peu tordus, ou au contraire, des trucs que j'aurais jamais loué en temps normal. Et le premier film gratuit que j'ai pris, c'était contre ma volonté. Quatre garçons pleins d'avenir, parce que j'avais une copine et un pote avec qui j'étais qui ont joué les démons malveillants et qui vraiment m'ont convaincu de le prendre, qu'ils avaient trop envie de le voir. Et moi, même gratuit, j'avais des scrupules parce que le film, il était sorti il y a un an, j'avais donc vu les extraits, la bande-annonce au moment de sa sortie en 97, et ça sentait vraiment la méga daube à des kilomètres. Et vraiment, on n'a pas été déçus du tout, quoi. En fait, là, si tu veux, moi, en le revoyant là pour l'émission, il y a un truc, je trouve, qui résume à peu près tout dès le début du film, dans une des premières scènes en tout cas. Il y a un truc au cinéma qui est un peu devenu un cliché avec le temps. C'est les personnages dans les films qui, à un moment, dans un salon, dans une chambre d'hôtel, ils regardent la télé et ils regardent systématiquement « Ne se feras-tu de Murnau ?» Et c'est un truc qu'on a vu dans plein de films d'horreur, mais aussi dans plein de films d'auteur, dans certains polars un peu néo-noirs dans les années 90 aussi. Enfin bref. Mais là, dans 4 garçons pleins d'avenir, il y a un personnage qui regarde non pas « Nosferatu » à la télé, Mais Tom est tout seul, le deuxième film de Fabien Doniente avec Florent Pagny. Écoute, donc voilà, ça, en fait, ouais. Et en plus, il le fait en mangeant des tartines à la mayonnaise pendant que sa colocataire se fait baiser dans la pièce d'à côté. Donc là, en trois petits détails, tu as à peu près tout Quatre garçons plein d'avenir dans une coquille de noix, comme tu viens de dire.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Je veux dire, la première fois où je l'ai vu, il n'y a que deux trucs qui m'ont fait rire, vraiment. C'est une apparition de Patrick Sébastien à la fin du film, sans spoiler, disons qu'il apparaît dans un rôle secondaire tout au long du film. On le voit à plusieurs reprises. Mais à un moment du film, tu l'oublies un peu et il réapparaît de manière totalement inattendue et incongrue. Et ça, c'était drôle, mécaniquement drôle. Et l'autre truc, pour le coup, que j'avais trouvé drôle à l'époque, et que j'ai retrouvé, c'est le seul truc que j'ai trouvé à peu près drôle au revisionnage, c'est le coup du type en 205 qui sert de contact pour aller en rêve et qui bombarde en écoutant de la techno à Burn. Ça m'a fait rire, mais presque par nostalgie, parce que c'est le genre de personnage et le genre de plan que j'ai vraiment connu à l'époque. Ça m'a un peu ramené là-dedans. Mais sinon...
Vraiment, c'est chercher loin quand même. Hein, parce que je vois tout à fait ce que tu veux dire. Effectivement, pareil, c'est déjà arrivé. Mais oui. tiens, un détail qui marche. Voilà.
Je suis obligé de me rattraper à des détails qui fonctionnent à peu près. Parce que sinon, c'est une telle catastrophe. Hein. Moi, de toute façon... Ouais. Moi, il y avait un vrai souci à l'époque, de toute façon, qui était purement... technique, sociale, je sais pas comment dire ça, mais c'est que ça, c'est un film qui se passe en fac de droit avec des étudiants de fac de droit. Tu vois, moi j'étais en fac de lettres, c'était en 300% incompatible, on était ennemis jurés. Donc là il y avait tous les codes de la fac de droit, donc pour moi tout était horrible d'emblée. Donc déjà sur les personnages, j'avais déjà pas envie d'être pote avec eux, j'ai envie de les baffer. Et en plus quand ils mettent à parler, j'ai envie de les baffer deux fois plus. Et puis après il y a tout un vernis beauf sur le film, qui pour moi, donc à l'époque 22 ans, ça passait déjà plus, quoi. Enfin, par exemple, le coup de du personnage de la colocataire qui passe son temps à se faire, qu'on le voit quasiment jamais, elle passe son temps à se faire baiser, c'est pas très finou la première fois, mais ça devient vraiment très lourd au bout de la quatrième ou cinquième, quoi. Et en plus, elle est réduite à ça tout le film. Alors, à voir aujourd'hui, c'est terrifiant.
Ah, les personnages féminins dans Quatre garçons plein d'avenir,
c'est top, ouais. Voilà, c'est un des rares personnages féminins aussi, quoi. Après, bon... C'est compliqué, j'ai vraiment essayé de me dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder là-dedans, le seul truc, j'ai senti qu'il y avait une espèce d'énergie, mais un peu désespérée, où on sentait que ça voulait faire un gros coup de teen movie à la française, ouais. Hein, de chercher un peu le culte ou le nouveau classique. Tu sens que ça brasse beaucoup de vent, ça bouge dans tous les sens pour pas grand-chose, ça n'a pas beaucoup d'énergie. Et ça cite pas mal, quoi, tu vois, enfin, ça lorgne quand même pas mal côté Coluche. Il y a deux trois scènes qui sont des copies carbone de Banzai. Et le héros, le personnage principal, c'est une espèce de Coluche 90s, quoi. Un peu beauf. En plus, il y a aussi un clin d'œil au Ripou avec le personnage de Thierry Lhermitte qui joue un flic pourri avec quasiment les mêmes fringues que dans les Ripou. Et il y a la fin qui est toute la partie finale qui est une espèce d'arnaque coup montée pour que le personnage principal ait son année de droit.
C'est un heist movie avec des ordinateurs vintage. Voilà, hacker des ordinateurs pour truquer des notes.
On revient au hacking. Ouais.
Avec, il faut imprimer des papiers aussi.
Enfin, c'est ça. Et c'est d'ailleurs la partie la moins pire du film. Hein. Mmh. Et elle s'inspire justement pas mal aussi des sous-doués, quoi. En beaucoup, 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 beaucoup moins bien, forcément.
Mais... C'est ça. C'est tout un héritage de comédie française, de groupe trivial, paillard, qui s'est aussi épanché à travers les films de Max Pécasse, quoi, qui passait beaucoup à la télévision française, ouais, dans les années, ouais, 80-90. Chaque été, t'avais tes Max Pécasse, t'avais tes films de potes, comme ça, t'avais les sous-doués en vacances, tout ça. Uh-uh. Et c'est dans cette tradition-là, je te propose, voilà, pour de revenir en arrière, ouais. Jean-Paul Lilienfeld, quel est cet homme, quel est son projet? Moi, j'ai une théorie, ouais. C'est que c'est l'équivalent cinématographique de Julien Drey.
Oui.
Voilà. De ses origines jusqu'à son évolution récente. C'est quelqu'un qui a commencé en binôme avec un autre nom qui réveille beaucoup de syndrome de stress post-traumatique des années 80, c'est un pote de Patrick Braoudé.
Ouais.
Voilà, Patrick Braoudé, alors pareil, t'étais trop jeune, mais je vais faire un mea culpa de cinéphile, mais vraiment me fouetter le dos avec des orties. Quand Génial, mes parents divorcent est sorti, j'avais 11-12 ans et c'était mon film culte de l'époque. Et j'ai revu 5 minutes, j'ai fait, mais comme je me chie dessus, Mais comme je me déteste d'avoir aimé cette abomination, parce que c'est horrible. Enfin, tu vois, je me suis. Quand j'ai une scène de film me fait honte, je me cache dans mon t-shirt. Là, j'ai failli jeter l'ordi par la fenêtre, en fait. Enfin, c'était.
Ah, putain. Mais moi, pareil, un truc qui résume un peu tout, c'est genre, quand tu m'as dit, penche-toi sur le réalisateur, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et le premier truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, parce que c'est un truc, une anecdote perso, mais c'est XY, parce que une fois, on était dans un bar avec un pote, et il se trouve que dans le bar, c'était je sais plus où, enfin, fond, je sais pas quelle ville. Et il y avait une affiche de La vie dissolue de Gérard Flock.
Oui.
C'est complètement improbable. Et je me suis dit, putain, quelles sont les affiches, les dernières affiches qui seraient possibles de trouver chez quelqu'un affichées dans le salon. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve, enfin, c'est une liste des 5 films vraiment les plus... Je me souviens pas de tout, mais je me souviens qu'on avait, mis Japlou avec Guillaume Canet. Qu'on avait cité le film de Tim Seat, où Tim Seat avait dépensé des millions juste pour baiser virtuellement Cécile de France. J'ai oublié le titre. Tu vois de quoi je parle.
Oui, mais alors, oula.
Je vais le retrouver. Ouais. Ce film m'a traumatisé tellement, je me suis dit, non, en fait, ce mec se fout de la gueule de qui, quoi. Et je sais que dans le tas, il y avait, au tout sommet de la liste, il y avait XY. Vous vous demandez, mais qui ça faisait tellement, c'est tellement le film qui sent, dès sa sortie, tu vois déjà la jaquette DVD qui prend de la poussière dans un carton, dans un vide-grenier, tu sais. Il y a vraiment ce truc de film... condamné, quoi.
Film de 96 de Jean-Paul Lilienfeld, écrit par Jean-Paul Lilienfeld, qui est un auteur, avec starring Patrick Braoudet.
Patrick Braoudet, ouais.
Voilà, qui est un directeur de... il fabrique des jouets, je crois. Et enfin, en gros, il y a toute une histoire avec Clémentine Célarié. Ça parle de FIV, fécondation in vitro, ou pas. Voilà. C'est le sujet... on sonde l'époque. Voilà.
Ah oui, c'était grosse actu à l'époque. Ouais, mais c'est fou, quoi. Mais là, je mate sa filmo et... Parce qu'il a aussi une filmo d'acteur. Mmh. Parce qu'il a aussi fait de la figure et des trucs comme ça.
Il commence dans les début des années 80, dans La nuit de la mort, de Raphaël Delpar. Enfin, dans les genres d'époque, quoi. Entre polar, comédie, surtout comédie quand même.
Il a les marques de certains trucs. Il était dans Inspecteur la bavure, dans Les Soudoués en vacances. Il y a des trucs qu'on... Le puzzle se recompose.
Une intersectionnalité, finalement.
Voilà, ouais. Il était aussi dans Les Barjots. Alors, Les Barjots, c'était une série de télévision qui avait été un bide, mais phénoménal. C'était un truc... c'est un espèce de Maggie pour jeunes.
Oh, putain.
Donc, vers milieu des années 80. Et ils avaient lancé comme ça des trucs un peu expérimentaux avec un nouvel humour, tu vois. Et Les Barjots, je me souviens que ça n'a pas duré longtemps parce que c'était tout le monde... les gens, à l'époque, se plaignaient. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc... Et ils envoyaient des lettres ou des trucs comme ça. Et en fait, il y avait eu tellement de gens qui disaient « Mais on comprend rien à ce truc, c'est nul. » Et effectivement, j'ai regardé une fois, je m'en souviens, et c'était mais embarrassant.
Ouais.
Tu sais, on prend, je sais pas, 5 personnes, on doit combler une case là, et allez-y, improviser pendant 10 minutes, s'il vous plaît, avec des fringues bizarres. Ouais, c'est terrible. Moi, le seul truc que je vois de positif dans sa filmo, c'est qu'il a fait un petit rôle dans L'été en pente douce, c'est tout.
Bah, il a coécrit L'été en pente douce.
Il l'a coécrit. Bon, après, c'est une adaptation.
Ouais. Oui, puis tu sens difficilement sa patte. Hein. Du coup, j'ai revu, le film est ressorti il n'y a pas longtemps en copie restaurée, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Film avec Jean-Pierre Bacri, Jacques Villeray,
Pauline Lafont,
tout à fait.
Guy Marchand dans un rôle de Guy Marchand.
Oui, tout à fait. Voilà. Ah, Guy Marchand, bah oui. Vous ici, bah oui, évidemment. Et
forcément.
Entre les barres d'immeubles de la banlieue d'époque, avec Jean-Paul Lilienfeld qui joue un gros beauf qui bat sa femme et qui vend sa femme, plus ou moins,
à
Jean-Pierre Bacri. Ils vont s'installer en province, dans une maison qui retape. Les voisins, Guy Marchand, vient l'emmerder parce qu'il veut racheter le terrain. Et voilà, film dans son jus d'époque, mais qui vieillit bizarrement bien.
Voilà, oui, c'est
ça. Il arrive bien à capter la chaleur aussi. C'est ça que j'aime bien dans ce film-là.
Ah oui, il est bien moite.
Voilà,
ce film.
Il est caniculaire à souhait.
Mais il est d'une façon assez. Tu sens qu'il y a un peu de recherche. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que si on compare la transpiration dans L'été en pente douce à la transpiration dans la peau de Blanche Houellebecq, dans le film de Nick Lou, il y a un truc plus sale.
Oui.
enfin plus Kraspec, pas sale, Kraspec. Et là, il y a un truc plus ouais de moiteur d'été un peu lourd.
40 ans sont passés par là, hein, faut le dire.
Ouais. Il y a ça. Puis en fait, bon bah voilà, à l'époque, on nourrissait pas mal d'espoir en Gérard Krasik avant que.
Bah absolument. Avant que
tout implose.
Ça. Et la même année, en 1987, il co-scénarise avec Patrick Braoudet L'œil au beurre noir de Serge Ménard.
Ah, écoute, toi, tu n'avais pas vu, donc tu m'as dit.
Ça m'a dit quelque chose. Je pense que je l'ai vu à la télé jeune et que j'en avais aucun souvenir.
Ça a été diffusé quelques fois, puis au moment de sa sortie, c'était un gros truc parce qu'il y avait. Bah, c'était au moment de la montée en puissance de Smaïn.
Ouais.
Et puis, il y avait. Bah, y avait un côté
aussi.
Un peu. Oui, et de Legitimus. Et il y avait aussi tout un côté. Voilà, toute comédie autour du racisme, donc forcément ça prenait pas mal. Enfin, c'était un peu un sujet d'actualité assez fort. Moi je me souviens avoir vu la bande-annonce de ce film des centaines de fois. Enfin, c'était vraiment un matraquage. Hein. Je ne l'ai pas revu moi, mais je pense que ça doit être affreux.
Non, c'est-à-dire que tu vois l'intention. Et c'est vraiment le côté Julien Drey, touche pas à mon pote. On est des alliés, les mecs. On est avec vous, les gars, et vous êtes nos potes. D'accord. Et c'est dans le côté dénonciation du racisme, c'est très compliqué à voir aujourd'hui. Tu vois la démarche, c'est-à-dire que le cœur a priori est au bon endroit, mais
mais c'est très lourd, quoi. C'est
voilà.
C'est très,
on dénonce le racisme en utilisant les éléments de langage du racisme et parfois en oubliant la distance. Tu vois, juste en redisant les blagues et tu fais oula, ça manque un petit contexte là peut-être. mais c'est qui veut bien faire avec le côté un peu Marlou, Titi. On essaye de forcer les répliques cultes, tu vois. Le personnage de Smaïn, chaque fois qu'il veut se tirer une ombre, il dit ah, Rachid System. Enfin,
j'avais oublié ça. Ça, c'était devenu un truc un peu semi-viral à l'époque. Il n'y avait pas encore internet, mais c'était semi-viral.
Et Lilienfeld et Patrick Braoudet, tout beau, tout jeune, jouent des espèces de quepons vulgos qui embêtent les nanas. Et en fait, c'est un stratagème à chaque fois pour que Smaïn vienne. La sauver, peut-être la draguer, puis se l'envoyer, selon les termes d'époque, finement fleuri et choisi. Et voilà, ils font ça en utilisant des gimmicks racistes. Et j'ai vu le truc, j'ai fait oulolololo. Puis tu vois le twist, tu fais oui, oui et non. Mais et le film, globalement, essaye de faire un peu de la chronique, à la fois sociale, sociétale, de mœurs aussi, parce que Smaïn et Legitimus tournent autour de la même nana. Aime bien les deux. Enfin, c'est film dans son jus, qui veut bien faire, qui est un allié. Voilà, c'est un film allié.
Ouais. Film allié.
L'œil au beurre noir. Mon Dieu.
Mais c'est pas étonnant qu'il ait été oublié aussi. Hein. Ouais. Je veux dire qu'il était. C'est compliqué, quoi. Enfin, c'est pas un truc à très bien vieillir. Puis en plus, effectivement, Smaïn a à la fois beaucoup joué pour le succès à l'époque et joue aussi beaucoup pour le fait qu'on l'ait oublié aujourd'hui.
Ouais.
C'est un peu hard. Et on a aussi beaucoup oublié un autre film dont tu m'avais parler qu'il fallait absolument voir avant de faire l'émission, qui est HS hors service.
Oui, qui fait après 4 garçons plein d'avenir, en 2001.
Ouais, et alors là, moi, je pensais pas qu'un truc pareil pouvait exister. En fait.
C'est quelque chose, ça aussi.
Ouais, ça, faut présenter un peu. C'est un espèce c'est une tarantinade à la française. Ouais. Un film d'espionnage, de thriller, je sais pas quoi. Ouais, enfin, un truc à la Tarantino. De 2001, et alors avec un casting ahurissant.
Dans le rôle principal, on a Dieudonné, qui joue un tueur à gages, le plus cool de la bande, mais qui se repentit et qui essaye de s'en sortir. On a Laurent Deutsch, en incompétent, voilà. On a Lambert Wilson en chef du crew, et sa caractéristique, c'est qu'il est homosexuel, voilà.
Ouais,
c'est juste ça. C'est. Si, c'est affreux quand même. Je veux dire, c'est pas aussi horrible que.
Je regardais le casting, effectivement, il y a François Berléand, Jackie Berroyer.
Le truc avec Lambert Wilson, c'est cette caractéristique, qui en est une, c'est qu'ils essaient de rendre ça cool. Et c'est fait avec des dialogues pseudo-élégants, pseudo-rentre-dedans. C'est effroyablement maladroit. Voilà.
Ah, c'est terrible ce truc. C'est vraiment. Et effectivement, Dieudonné, ils essaient d'en faire un espèce de Samuel L. Jackson.
Ouais.
Mais, je veux dire, rien que cette phrase, imaginez, en fait, laissez-la macérer 5 minutes dans la tête. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
Enterrez-la dans le jardin et déterrez-la dans 25 ans. Oui, voilà.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et. Ouais, je sais pas, c'est assez terrible. Enfin, c'est-à-dire que on en discutait l'autre jour, parce que moi je m'étais beaucoup énervé, enfin, je m'étais arraché les cheveux devant Drive Away Dolls là, de Dan Cohen, qui
Ouais.
est une espèce de Tarantino anachronique qui est sorti là. Je sais pas lequel est le pire, en fait, mais je pense que HS Hors Service c'est quand même nettement pire parce
Oui.
qu'il va encore plus loin dans le foutage de gueule, quoi.
Non, puis avec une bande originale un peu cool, tu vois, du groupe Big Soul. Enfin, où ils prennent des titres de Big Soul, des titres un peu d'époque aussi. Enfin, c'est très, vraiment dans son jus, quoi.
Bah, c'est un truc qu'on a déjà dans 4 garçons plein d'avenir, parce
Ouais.
que je sais que le générique
Le
notamment,
pur son pop rock, ouais, d'époque, ouais.
c'est vraiment ça, une espèce le générique, c'est une espèce de showcase de presque tous les tics visuels et musicaux de l'époque, quoi. Et t'as toute cette espèce d'esprit un peu néo-70s, parce que je le rappelle, les années 90, c'était les années 70.
Oui.
Et t'as, niveau musique, ils essayent vraiment de balayer, mais quasiment toute la décennie. De 90 à 97, puisqu'on est qu'à 97, mais avec tout vraiment, il y a des récupérations de néo-funk, d'acid jazz, de beats un peu baggy, il y a du big beat anglais, une espèce de crypto-French touch par moment.
Ouais.
Mais tout ça est variétisé en fait, avec des paroles françaises par-dessus, bien bien con. Et t'es là, ok. Il y a d'ailleurs une scène dans une fête qui résume aussi très bien le film, j'aurais pu la citer avant également.
Dans 4 garçons plein d'avenir, du coup.
Ouais, donc un garçon
Ouais.
plein d'avenir. Ils sont dans une fête et il y a le tube de début de soirée qui passe.
Oui.
Ah, tu vois, rétro, débile, quoi. Qui passe plusieurs fois dans le film, d'ailleurs. Et puis, sous fond de musique, ils vont voir, il y a, je sais plus quel acteur, celui qui a les cheveux frisés, avec une tête d'Airi, qui va voir une nana et lui dit hey, « tu suces !» Et c'est ça la vanne, en fait, il n'y a rien d'autre.
Ouais.
Donc voilà.
Oui, mais c'est le personnage un peu foufou de la bande.
Ouais,
C'est
c'est zinzin,
justifié.
quoi. Zinzin. C'est-à-dire qu'il fallait pas grand-chose, en fait,
Oui.
pour être zinzin.
Ça
Ça
décale.
suffisait.
Ça décale. HS hors service, c'est une catastrophe, c'est une grosse plantade. Alors après, ça doit pas être un budget déraisonnable non plus, mais toujours est-il que Jean-Paul Lilienfeld ne tourne plus pendant 7 ans, et il fait un comeback tonitruant avec... Alors, c'est produit par Arte, c'est un téléfilm, mais qui est sorti en salle. Il revient avec La Journée de la Jupe, starring Isabelle Adjani. Un film qui fait beaucoup parler à l'époque, hein, qui suscite moult, moult, moult débats. Déjà à l'époque, c'était tendu, hein, mais à revoir aujourd'hui, je trouve ça. Mais en plus, en ayant fait la filmo antérieure de Jean-Paul Lilienfeld, voilà, L'Œil au beurre noir, tout ça, là,
T'as
c'est
été au bout.
vraiment la prof de banlieue qui prend sa classe en otage, avec un discours sur le lâcher-prise de l'éducation nationale.
Oui.
On a Olivier Brochuriou, là, celui que tu taxais de Coluche 90s. Bon, écoute, ça se défend, ça se défend. Il joue un prof gauchiste, tu vois, genre il se prend une mandale par les élèves, il fait ah non mais c'est normal, faut aussi qu'il exprime la violence, tu vois le collabo quoi, vraiment
Ouais.
l'extrême droite appellerait le collabo aujourd'hui, et voilà, et le personnage d'Isabelle Adjani est complètement, elle craque, elle en peut plus de tous ces jeunes sauvageons qui ne l'écoutent pas, qui ne veulent pas apprendre Molière et Shakespeare. Mon Dieu, le dispositif qui se déploie autour de ça, il y a des parents d'élèves qui débattent justement. T'as
Ouais.
toutes les questions des tensions communautaristes, hein? C'est un pur
Oui.
film CNews. C'est
Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Et puis en
dégueulasse,
plus,
vraiment.
il y a la police qui s'en, qui se, il y a la police et la presse qui s'invitent dans cette soupière, quoi. Donc c'est vraiment hautement explosif.
Le négociateur est joué par Denis Podalydès en
Oui,
uniforme de flic. Déjà, tu vois Denis Podalydès arriver en négociateur en uniforme, tu dis non, 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 non,
Et
non.
ouais, c'est assez hard, quoi. Et visiblement, il y avait eu quelques polémiques, justement, effectivement. J'ai retrouvé des traces de tribunes, des choses comme ça à l'époque. Et souvent, les gens opposaient beaucoup le fait que c'était une version. Enfin, qu'en gros, c'était. On a eu un film sublime avec Entre les murs. Et vous nous ramenez ce truc qui fout tout par terre, quoi. Je pense qu'il y aura peut-être eu un bon film entre les deux, je sais pas, mais c'est vrai que les deux étaient dans des positions un peu, c'était vraiment la grosse polarisation, quoi.
Bah, t'avais tout un aussi une comment dire un détournement vraiment de com autour du bah, cette espèce de grand retour d'Isabelle Adjani qui en plus adresse la question de cette double identité, enfin de ses origines. Et non, c'était à l'époque, moi je me rappelle, les débats, c'était non, mais c'est un film qui pose des questions, c'est un film qui brise des tabous. Voilà. Et alors, tu vois le truc, mais c'est mal écrit. T'as des tentatives, justement, de petits décalages ironiques, humoristiques. Alors, là, c'est lâche, ces personnes qui ne veulent pas prendre de décision. Ah là là, cette déresponsabilisation. Déjà, le discours pas de vague, hein, tu vois. Pas de vaguisme. Et, mais quel enfer. Tu vois, justement, là, on se tape plein de films. La salle des profs, Amal qui va sortir dans pas longtemps. Rien n'a bougé en 15 ans et c'est déprimant et
c'est compliqué. Ouais. C'est je suis pas assez proche du sujet pour
non, mais va chier Jean-Paul Lilienfeld, c'est ça le truc, hein, si tu veux. Moi non plus, moi je connais juste des gens, y compris qui interviennent de temps en temps sur Discordia et qui me parlent un petit peu de leurs conditions de travail. Enfin, ce genre de film, c'est vraiment. Il y a des problèmes, et c'est plus ou moins de leur faute, parce qu'ils font rien, parce qu'ils savent pas comment gérer, alors qu'il faudrait gérer en prenant les places en otage, a priori. Non, mais tu vois, au secours. Au secours, là, la journée de la jupe, quoi.
Ouais, et après, alors les deux derniers, je les ai pas vus, Arrêtez-moi et Juliette dans son bain. Juliette dans son bain, c'est très récent, c'est un téléfilm.
Alors. Non, j'ai pas revu XY, je l'avais vu, et j'en ai aucun souvenir. J'ai vu que c'est XY normal. Et Arrêtez-moi étaient sur Canal+, et par éthique. Voilà. Enfin, il y a plein de films qui sont où tu vois que Canal+ était à la coprod, mais là c'est vraiment donner des sous pour voir des films de Jean-Paul Lilienfeld à Canal+. Voilà, j'ai une décennie au moins d'achat de feuilles OCB dont j'ignorais que le B voulait dire Bolloré à me faire pardonner, tu vois. Donc arrêtons. Et non, par contre, j'ai vu Juliette dans son bain et c'est une adaptation d'un roman. Mais où Jean-Paul Lilienfeld, en fait, parachève sa mue en Julien Drey, période CNews. C'est-à-dire que c'est André Dussolier, qui est un riche mécène, apparemment avec un passé sulfureux. En fait, on révélera que pas tant que ça, tu vois. Et sa fille se fait kidnapper par un mouvement d'ultra-gauche. Voilà, il y a un journaliste qui a enquêté sur le groupe de Tarnac. Donc tu vois, t'as ça en sourdine un petit peu. T'as plusieurs personnages qui disent non, mais son seul tort, c'est d'être trop riche. Et un riche qui veut aider les arts, c'est suspect.
C'est très ces dernières années, ça.
C'est 2022. Riche, après tout. C'est 2022. Mais c'est vraiment. Putain, la haine des riches, quoi, qui se développe dans ce pays, quoi, c'est dangereux. À un moment, t'as Dussolier qui entend un espèce de proto-Mélenchon à la radio, qui dit, bon, voilà, il s'est fait enlever sa fille, c'est terrible, mais en même temps, les riches. Et tu vois, avec les gens qui applaudissent derrière et tout. Et avec Dussolier, tu vois, qui soupire.
Je devrais pas rire, c'est désespérant, en fait.
Donc voilà Jean-Paul Lilienfeld, le Julien Drey du cinéma français, c'est ma théorie, c'est ma thèse, je m'y accroche. On revient... tant bien que mal, à quatre garçons pleins d'avenir.
Donc, quatre garçons pleins d'avenir.
Objet de 1996-97, très dans son jus, hein, comme tu l'as dit, le esthétiquement. Ouais. Voilà, on est à la fois sur du post-Max Pécasse, mais avec un truc un peu cool, un peu branchos.
Il y a tous les petits éléments de l'époque, visuels. Puis ça préfigure un peu, l'air de rien, c'est un peu les racines du mal de Michael Youn et tout ça, quoi. Qui à l'époque, je crois que c'est les premières émissions de radio de cette abomination nationale, c'est 98, un truc comme ça. Donc, et après, son gros succès, c'est vraiment le début des années 2000. Mais là, on sent vraiment les prémices de tout ça. Cette espèce d'humour un peu beauf... je sais pas, c'est... Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment ce truc peut... À moins... Enfin, il y a un truc de nostalgie, hein, forcément, ça joue toujours... je pense que les gens qui ont découvert ça quand ils avaient, je sais pas, 8 ans, peut-être. Peut-être, je peux comprendre, je sais pas.
Je pense que j'étais vraiment le cœur de cible, quoi. Tu vois, j'avais 16-17 ans quand c'est sorti. Normalement, c'était... Ouais. J'étais programmé pour, tu vois.
Oui, c'est vrai que oui, il y a encore jusqu'à 15-16 ans, tu peux... peut être réceptif.
Mais voilà, je sais pas, les Max Pécasse, les Soudoués, c'est pas les trucs qui me... Les films de Coluche un peu plus, déjà. Mais parce que t'avais un côté un peu plus cinématographique quand même, mais c'était pas les films qui me réjouissaient au plus haut point, quoi. Et moi, je vois juste une, quand je regarde ça, je vois juste une version mise au goût du jour de ça, une version
c'est ça.
M6. M6, c'était un peu cool et transgressif, c'était un peu le MTV de l'époque, M6. Ouais.
Voilà. Bah oui, ils étaient dans leur gros truc rien à foutre, comme ouais. Je t'avais dit. C'était... Non, mais c'est vraiment un truc, effectivement, qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un film qui pète pas plus haut qu'un Max Pécasse, mais qui se rêve un peu en future grosse machine, en future classique, quoi. Comme je disais, il y a vraiment un truc, tu sens qu'il se démène vraiment pour être à la fois à la hauteur de Coluche, Louis de Funès, ou de trucs comme Les Soudoués. C'est assez embarrassant à voir parce qu'effectivement, tu as l'impression vraiment de gens qui courent dans tous les sens, qui brassent beaucoup de vent. Et c'est très mal écrit en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment de dialogue. Tu sens qu'il y a des punchlines qui ont été prévues, mais il n'y a rien qui est resté, quoi. Enfin, j'imagine qu'il y a encore des gens qui disent tu suces, c'est sûr.
Oui.
Mais
oui.
Mais il y en avait qui le disaient déjà avant.
Pareil, full disclosure, j'ai fait un an et demi de droit, parce que il fallait que je fasse quelque chose après le lycée, et que mes parents avaient fait du droit, et donc par défaut, voilà, mais comme beaucoup de gens. Hein. Enfin,
que c'est le cas de beaucoup de gens.
Tous les gens paumés dans cette merde, on s'en parlait, on disait « Ah oui, bah toi aussi, bah oui. » Je n'avais qu'à choisir. Et oui, mais ça me rappelle, tu vois, les soirées étudiantes, vraiment ce genre de truc, dans les boîtes de nuit, avec les faluchés, tu vois, tout un truc qui était vraiment très codé et où tout d'un coup t'es balancé là-dedans, c'est un peu violent, tu vois, quand même, ça boit beaucoup, il y a pas mal de violence littérale ou figurée, et ça me rappelle un peu ça, en fait, ça me rappelle un peu
marrant,
ce truc-là, mais
vrai.
En plus, coolos branché, quoi.
Parce que moi, tu vois, j'ai le même effet, mais avec les films de Greg Araki.
Ah ouais.
Ben non, mais je t'avais déjà dit, mais ouais. C'est vrai que si je dois me refigurer mes soirées en fac de lettres, c'était plus proche de ce qu'on voit dans Doom Generation ou Nowhere que de ce que je vois dans Casse Garçon Plein d'Avenir. Casse Garçon Plein d'Avenir, ça me rappelle effectivement les deux ou trois fois où je me suis infiltré en soirée de fac de droit. Et je me suis dit, ça y est, je traverse l'enfer, j'y suis. Et je le vis de première main. Et ouais, tout ce que tu as décrit, c'est terrible, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait un vrai truc, une vraie faille, quoi. Il y avait vraiment une vraie faille. Enfin, je sais pas. Mais en plus, oui, comme tu me dis, c'est crédible. Là, j'ai l'affiche devant moi en parlant, là, de 4 garçons pleins d'avenir. Et je les regarde. Et effectivement, ces gens-là, je les ai croisés avant même de voir le film.
Est-ce que c'est pas le péril jeune de droite?
Ça, c'est une vraie bonne question. Je dirais que oui. C'est le péril jeune de droite. Et de droite, hein, pas de centre-droit. De droite.
Non, RPR, quoi.
Non, voilà, RPR, à l'ancienne. L'affiche, le logo de Fun Radio et prend une place énorme sur l'affiche.
Bah oui.
C'est annoncé d'emblée la comédie de l'été, donc il y a vraiment cette ambition qui est là. Et alors, petit truc d'humour de l'époque, dans un truc un peu éclaté, là, tu sais, façon promo 20-20%, attention, ceci n'est pas un boys band. Parce qu'en fait, à l'époque, voilà, les boys bands, c'était le gros truc.
Oui.
Souvenez-vous.
Non, mais voilà.
Ouais, c'est un peu désastreux, quoi. Je suis hypnotisé par ce mec, Olivier Brocheriot, là, cette espèce de Coluche New School.
Oui, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Le film n'est pas écrit par Jean-Paul Lilienfeld, qui a apporté quand même quelques touches qui se recoupent dans ses films suivants. Hein. Il y a des passerelles avec HS, avec même La Journée de la Jupe, quelque part. C'est écrit par Jean-Patrick Bénès, qui, pareil, a un parcours de scénariste, notamment. Il a écrit Les Dents de la Nuit. Est-ce que tu vois Les Dents de la Nuit?
En fait, Les Dents de la Nuit, c'est... Enfin, pour moi, Les Dents de la Nuit, c'est à 4 garçons pleins d'avenir, ce que les 4 garçons pleins d'avenir est au Soudoué.
Ouais.
Donc, c'est pour tenir le... Là, on est sur un spectre très, très, très étendu.
Ah non,
C'est très, très loin. Ouais, non, Les Dents de la Nuit, c'est fantastique. Enfin, je veux dire, c'est du sub-Max Pécasse, là.
Oui, avec du cinéma de genre, avec des vampires.
Oui, voilà. Avec des vampires.
C'est waouh, Patrick Mill, Frédéric Bell, d'époque, franchement,
d'époque.
Des films d'époque. Et Jean-Patrick Bénès a fait un film de SF qui s'appelle Arès, qui est d'une immense maladresse, avec le cœur au bon endroit, le cœur au bon endroit, vraiment. Mais compliqué à regarder quand même. Et aussi un film que j'imagine tu t'es épargné, mais qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est Le Sens de la Famille, qui date de 2020. Est-ce que ça te dit quelque chose ?
Ça me dit quelque chose très très vaguement, mais non, je vois pas trop ce que c'est. Attends.
C'est un film de où toute une famille,
donc ouais, t'as Franck Dubosc, Alexandre Lamy,
Franck Dubosc, Alexandre Lamy, les parents et leurs enfants, en fait, tous changent de corps aléatoirement, et tu as des situations effroyablement gênantes où Franck Dubosc est possédé par l'esprit d'un nourrisson, ou voilà.
Ouais.
La mère se trouve dans le corps d'un ado. Enfin, c'est horrible. C'est horrible, un peu fascinant. Film que j'ai passé complètement caché dans mon t-shirt de honte, et en même temps je regardais parce que c'était tellement étrange. Voilà. Voilà.
Oh, ah ouais, là je suis en train de regarder un peu. Ouais, c'est assez c'est hard, quoi. Mm. Mais là j'ai ouvert 10 000 onglets. Là, je regarde les filmos d'Olivier Brochuriou. Stéphane Guérin-Tillé, enfin c'est dur. Hein.
Il y a de quoi se perdre. Il y a de quoi se perdre.
Ouais. Les Rivières Propres 2, tous les grands films reviennent. Ils sont là, ils réapparaissent petit à petit. Ils remontent à la surface. Même les épisodes de Navarro et tout.
Si on mettait plein de photos sur un mur reliées par des ficelles rouges.
Oui.
Gargarisons plein d'avenir n'est pas forcément une quintessence des années 90, quoique il y a quelques éléments, voilà, mais c'est un centre de gravité.
Oui, c'est un centre qui autour duquel tournent vraiment beaucoup, beaucoup de choses vraiment très horribles. Oui,
ouais, mais des gens qui ont été pertinents à un moment, qui ont adressé des choses.
Justement, parce que quand tu dis tout à l'heure le péril jeune de droite, bon, après le péril jeune, quand c'est sorti, c'était pas, tout le monde se disait pas forcément ces gens vont tous devenir des stars, mais il y avait quand même une espèce d'émulation, quoi. Là, il y avait guère qu'Olivier Sitruc qui était un peu en place, mais ouais, les autres, ça, enfin, tu vas dans la rue, même dans un même à la sortie d'une diffusion de Comédie Française, et tu demandes à des gens, donne-moi le nom des quatre acteurs de 4 garçons plein d'avenir. Je suis pas sûr que beaucoup relèvent ce défi, quoi.
Même les fans, hein,
oui, même les fans, donc. Les femmes, qui sont-ils ? Il aurait fallu en trouver un et l'emmener ici, attacher, et l'interroger, quoi.
Ah, c'est de la nostalgie d'époque.
Je pense que c'est de la nostalgie. Il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi.
C'est ça. Et il faut tourner le dos à la nostalgie à un moment.
Ce que je veux dire, c'est que je comprends totalement qu'on ait envie de revoir, je ne sais pas moi, Les Trois Frères, par exemple.
Ouais.
Enfin, je veux dire, c'est un film qui... Enfin, d'ailleurs, ça serait un truc intéressant à faire dans un autre épisode, Les Trois Frères versus peut-être La Cité de la Peur.
Ouais.
Pour avoir les deux faces d'une même pièce. Pour moi les deux, c'est très différent, quoi, parce que Les Trois Frères, il y avait vraiment un truc totalement inattendu, parce qu'au moment où c'est sorti, les gens attendaient plus du tout Les Inconnus. Il y avait un temps trop long entre leur gros succès à la télé et puis le film, et les gens attendaient pas forcément ça forcément comme un truc évident, et ça a très très bien marché. Et même les gens qui, enfin, comment, on n'attendait absolument rien, on trouvait ça plutôt pas mal. Et inversement, c'était de la peur, c'était vraiment genre, les nuls étaient à leur sommet et on leur déroulait le tapis rouge. Et en fait, c'était pas si fou, quoi. Enfin, moi, je trouve pas ce film si fou, même voire carrément pas bien. Mais là, je sais que je suis dans une minorité aussi.
Oui, je te confirme.
Ah oui, je sais.
Toujours le gap générationnel. Non, mais moi, comment dire, j'ai vraiment eu une immense euphorie en découvrant La Cité de la Peur au cinéma. Vraiment.
Ah, mais quand le moment où ça sort au ciné, ça fonctionne.
Oui, oui. Mais après, moi, j'en avais ras le cul d'entendre les répliques, en fait, au bout d'un moment. Le culte m'a gâché le film.
Ouais, le culte est vraiment supportable. Ouais. Quand tu vois tout ce qui a été fait autour.
Mais j'entends le mot Batavia, je me retourne, je fais ferme ta gueule. J'en suis là.
Ah, moi, il suffit que j'entende Gérard Darmon pour avoir envie de dire ferme ta gueule, c'est tout.
C'est autre chose.
Plus loin que ça, moi.
J'ai
besoin d'aller plus loin.
Ouais.
Mais c'est assez bizarre, effectivement, parce que je trouve qu'en plus, les comédies, c'est un des rares trucs qui peut marcher. Enfin, non, ça se vaut pour tous les films, mais ça peut dépasser, franchement, la nostalgie, quoi, tu vois. Et là, vraiment, il n'y a que ça qui peut fonctionner dans ce film, parce que je vois vraiment rien d'autre. Je vois vraiment rien d'autre. J'essaie de repenser un peu. J'ai des flashs traumatiques.
Vas-y, vas-y.
D'avoir vu ce film. Non, j'essaie de retrouver des trucs, mais...
Non, non, c'est vraiment... C'est un diagramme de Venn maléfique.
Ouais. Version que ouais.
Je peux lui concéder qu'il y a un certain rythme, que c'est un film qui a un déficit de l'attention, qui va vraiment dans tous les sens. Mais moi, enfin, ça... Il y en avait plein des espèces de comédies qui se déclaraient qui s'autoproclamaient cultes à leur sortie en fait à l'époque.
Bah, c'était comme j'avais dit dans l'émission sur Hackers, c'est un des trucs qui a beaucoup changé à ce niveau-là, enfin qui a changé les choses à ce niveau-là, c'est Trainspotting.
Ouais.
C'est que le marketing autour de Trainspotting, c'est une des premières fois, en tout cas la première fois à un tel niveau qu'on vendait un film culte clé en main.
Hmm.
C'est-à-dire que c'était pas du tout le succès en salle et puis le bouche à oreille ou je ne sais quoi qui allait faire, qui allait transformer un film en film culte. Enfin, en plus, il faut déjà s'entendre sur ce que c'est qu'un film culte. Pour moi, un film culte, c'est un film qui n'est pas forcément un film qui a du succès, qui est un film qui est vénéré par une petite poignée de gens, qui connaissent tout du film, de ses dessous et de ses dialogues et tout ça. Pour moi, quelque part, La Cité de la Peur, c'est déjà trop gros pour être culte. Certes, les gens connaissent les dialogues et tout ça. Mais c'est un truc qui a été trop diffusé trop largement. Pour vraiment être un peu culte, il faut vraiment que ça soit, tu vois, un peu souterrain, quoi. Mais c'est vrai que ouais, Trainspotting avait vachement changé la donne à ce niveau-là, quoi. Où c'était dès le début, voilà, bam, c'est culte, c'est comme ça, t'as rien à dire. On y va, tu suis ou tu suis pas. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont changé à ce niveau-là. Bah, comme je te disais, voilà, là, ça a annoncé la comédie de l'été sur l'affiche. Aujourd'hui, qui oserait faire ça? Bon, aujourd'hui, on fait pire, mais
oui.
Là, il y a un truc un peu bold, quoi. Le seul truc comparable, l'équivalent de dire la comédie de l'été sur une affiche aujourd'hui, c'est l'affiche de The Whale, là, où il y avait bouleversant, sans aucune source, juste bouleversant. Je me souviens plus, attends, je vais retrouver le titre. Un film indien, La Natte, quelque chose.
La tresse. Tu vas chialer, mec.
Oui, c'est sûr. C'était en énorme, surtout de la vie. Genre, tu vas chialer ta mère. Ça m'avait fait. Ah oui, préparez-vous à être ému aux larmes. Mais bon, là, une source quand même.
Oui, au moins.
Par le premier.
C'est mieux. Est-ce qu'il y a une malédiction de la comédie française? Est-ce que c'est un tournant quelque part? Non, c'est pas, non, c'est un espèce d'épicentre malgré lui, qu'un garçon plein d'avenir, c'est ça le truc, quoi. Et
je sais même pas, moi, honnêtement, enfin, si j'étais un peu là, si j'étais j'ai quand même beaucoup été sur les réseaux sociaux depuis que les réseaux sociaux ont été inventés, et je m'en suis beaucoup éloigné là dernièrement parce que j'ai besoin de temps et tout ça, mais si j'avais pas été justement sur les réseaux sociaux, j'avais pas vu des gens en parler que je connais absolument pas, je me serais jamais imaginé que ce film soit encore un sujet de discussion, quoi. Mais après, j'ai l'impression aussi que la comédie française pas très bonne est un sujet de discussion.
Oui.
C'est un truc, moi, qui me passe un peu au-dessus de la tête, et pourtant j'aime beaucoup la comédie et même souvent des films très mauvais, mais il y a vraiment un truc que je capte pas dans ce délire-là, quoi.
Bah, on salue quand même le camarade Daniel Andreev.
Lui qui fait des classements sur toutes les...
Mais oui, voilà, oui, mais voilà. Parce qu'il s'est pris de fascination et qu'il voit des articulations, des schémas, et qui arrive à faire parler ses merdes, tu vois, à dire qu'elles sont représentatives de quelque chose, de l'époque, et puis aussi...
Que fais-tu dans la vie? Je vais parler les merdes. Ça fait, je vois quelqu'un avec un petit dressage, une petite cage, avec un caca.
Oui, dans un champ face au soleil. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. J'ai cette image très nette aussi. Et et puis aussi, quand même, chercher ce qu'il y a de bien. C'est chercher des petites choses.
Évidemment, j'ose espérer. Oui, il y a encore des trucs qui sortent du lot, quoi. Mais c'est vrai que là, je suis en train, par exemple, de regarder divers classements, là, un peu en manière impromptue, notamment sur Allociné ou MDB, de classement de comédie française des années 90, et effectivement il n'y a rien en dessous de 1995, quoi. Tous les films cités, c'est vraiment tu vois, ça s'arrête à Cuisine et Dépendance, Les Trois Frères, donc La Cité de la Peur, Mais ça va pas plus loin, ça va pas justement dans la deuxième moitié, ce qui rejoint aussi un peu ce que j'avais déjà dit dans les épisodes précédents, où vraiment il y a vraiment deux années 90, enfin je veux dire, et la première moitié et la deuxième moitié, c'est deux périodes très très différentes en termes esthétiques et en termes d'ambiance, d'état d'esprit, quoi. Et c'est vrai que là, quand je vois les classements, ça me saute un peu aux yeux. Le seul film un peu plus de deuxième moitié qui apparaît, c'est Western de Manuel Poirier. Plein de gens ont sans doute oublié parce que il avait eu le prix du jury à Cannes, donc c'est pour ça qu'il avait beaucoup fait parler à l'époque, mais c'est vrai que tout le monde l'a oublié, quoi.
Oui, et puis ultra défendu par l'Axe du Mal, première studio. Enfin, la première, ça allait à l'époque.
J'ai jamais lu Première de ma vie.
J'ai pas lu depuis longtemps. J'ai pas lu depuis longtemps. Il paraît que il y a des trucs bien dans les dernières itérations. Je ne sais pas. C'est possible. Voilà.
Mais tout est possible.
Complètement décroché à un moment. Quand il faisait les espèces de formats plus petits là. Enfin, pas le format, hein, mais ce qui était dedans, c'était ouh là. J'étais pas content. Et pour revenir à la comédie, c'est. Moi, je m'y suis intéressé quand j'ai commencé à bosser au cinéma de l'Alpe d'Huez et que je regardais tous les films. Et c'est vrai que c'est devenu un petit violon dingue. Effectivement, ça dit des trucs de l'époque, à chaque fois. Et Quatre garçons pleins d'avenir, t'as, je pense, aussi une espèce d'insouciance.
Ah oui, il y a encore ça.
Tu vois, on fait n'importe quoi, on triche, on ment, et on se rattrape aux branches derrière et c'est rigolo.
Vrai que là, pour le coup, comme je disais, effectivement, si tu as effectivement deux parties très distinctes, il y a quand même une espèce d'insouciance qui traverse toute la décennie. Ou en tout cas d'espèce de foi à peu près correcte en l'avenir. Qui est assez forte au début, parce qu'on arrive avec la chute du mur de Berlin, ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire, enfin en gros le côté les méchants sont morts et les gentils ont triomphé, et puis avec la CE qui prend aussi de l'ampleur également, mais très vite tu sens que ce truc là se délite aussi très vite, déjà avec la guerre du Golfe et tout, presque quasi immédiatement, mais il y a vraiment un truc qui retient vraiment de l'insouciance, et qu'en plus aujourd'hui, nous, depuis 2024, on voit ça avec d'autant plus un œil, d'autant plus insouciant que il y a eu un shift vraiment violent avec le septembre en début des années 2000, où là vraiment tu sens qu'il y a une l'état d'esprit change complètement.
La gravité était quelque chose de limite adolescent, en fait.
C'est ça, c'est que quand tu faisais un film un peu grave ou un peu sentimental grave, là je pense direct tout de suite au film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves. Qui ressort en 4K, là, comme tout, à peu près tout. Et c'est un film qui avait eu beaucoup de succès sur le moment, mais qui plaisait beaucoup aux mecs un peu splinétiques, et puis aux jeunes filles tristes, quoi. Puis là, c'était vraiment un truc comme ça. C'était très catégorisé. Et ça s'est ringardisé extrêmement vite, genre dès l'année suivante ou, tu vois, peu de temps après, c'était plus possible de voir un film comme ça, quoi. Et du coup, je suis assez curieux de le revoir. Je me demande comment ça se voit aujourd'hui, en 2024. Ça passe sans doute mieux, je pense, peut-être. Mais c'est vrai que c'était un peu dur, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où c'est sorti, tu vois, il y avait. Je suis pas sûr que ce soit vraiment pile le même période, mais moi, au moment où justement les gens. Les gens au lycée qui m'intéressaient pas tellement étaient tous à fond sur Les Nuits Fauves. Moi, pendant ce temps, le film qui m'avait vraiment explosé, c'était À toute épreuve. C'est pas du tout la même chose. Là, on est dans une forme d'insouciance aussi, tu vois. Mais où tu casses des trucs.
Bah oui, mais faudrait y passer par John Woo aussi, c'est bien.
Mais pour le coup, celui-là, je l'ai revu encore il y a pas longtemps, ça a pas pris une ride, quoi. Mais parce que, ça aussi était un truc, c'est pour moi, c'est des films qui sont l'équivalent en cinéma de ce qu'ont été en musique, tu vois, des trucs qui ont été des tournants, quoi. Où d'un coup, t'avais l'impression que quelqu'un a réinventé quelque chose, alors qu'en fait, c'est juste une remise à jour de choses qui existaient déjà. Mais c'est ça qui est intéressant. Non, avec Quatre garçons pleins d'avenir, ça ne remet rien à jour. Ça dégrade des choses.
Et puis photographie d'époque, pas tellement. Enfin, je sais pas.
C'est un truc que je regarde un peu parce que je trouve qu'il y a vraiment une espèce de patine particulière sur les films des années 90. elle y est encore quand même dans ce film, même si c'est moche, hein, on est d'accord. Mais en plus, c'est tourné à Aix-en-Provence, donc ça ajoute le côté un peu. Alors aujourd'hui, Aix-en-Provence, c'est ruiné complètement. Parce que bah, toute cette région-là a été surutilisée, quoi. Mais à l'époque, c'était un peu frais de voir ça.
Absolument.
Mais voilà.
Un film de province proche du peuple, pas du tout. Pas du tout.
De droite.
De droite, hein, ouais. Non, non. Voilà. Indice chez vous, Patrick Sébastien en second rôle. Voilà.
Voilà.
C'est pas parce que t'as Billy the Kick et les gamins en folie sur la bande originale que. C'est un faux indice. C'est un faux ami. Voilà.
Oh, putain. J'attends de voir la réédition 4K en Blu-ray et de voir quel bonus il va y avoir et qui va aller parler en bonus.
Il y a eu un projet de suite aussi, effectivement, j'avais entendu. Mais l'info tourne depuis pas mal de temps, en fait. C'est un peu une espèce d'arlésienne, rumeur. Est-ce vrai ?
Ça date plus ou moins du Covid, en fait,
ouais, voilà.
2020. Et ouais, effectivement. Et je crois qu'ils veulent appeler ça les relous.
Ouais. Mais pour l'instant, rien de vraiment confirmé. Hein.
Non, mais je doute que ce soit. Quand je vois la difficulté de certains projets qui sont annoncés depuis un moment et qui galèrent, je sais pas. Bon, après, la comédie, c'est un axe particulier, quoi.
Ouais.
Mais ouais, je sais pas. C'est compliqué.
Quel garçon plein d'avenir, Mais même pas, j'allais dire, on s'excuse aux fans. Pas vraiment non plus.
Non, faut pas s'excuser. Ah ouais, voilà, c'est tout. Tout ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. On ne peut pas tous être d'accord sur tout, on ne peut pas tous être amis, on ne peut pas tous partir en vacances ensemble. C'est pas possible, c'est une utopie.
C'est une utopie. Eh ben écoute, on se retrouve la prochaine fois pour parler des Nuits Fauves, du coup.
Ouais, sans doute. Bon ouais, pourquoi pas les Nuits Fauves, ouais. Les Nuits Fauves, on va faire une mise en abîme de Nuits Fauves avec la Cité de la Peur et les Trois Frères.
Écoute.
Ce serait vraiment genre une espèce de truc qui est totalement illogique.
Ouais, non, mais il faut lier Maurice Pialat et Alain Berberian.
Voilà. Non, mais les Nuits Fauves, ça peut être une bonne idée, effectivement.
Allez.
On garde là-dessus, on garde cette idée en tête.
Bah, merci à toi en tout cas, et puis à la prochaine.
À la prochaine.